Zelda Sir Fitzgerald, une artiste brimée, est dépossédée par son mari.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Surtout connue comme épouse du romancier Scott Fitzgerald, ainsi que pour sa personnalité publique extravagante et sa descente dans la maladie mentale, Zelda Sir Fitzgerald était également une artiste et une écrivaine. Elle et son mari, Francis Scott Fitzgerald, sont devenus les icônes des libertés et des excès de l'âge du jazz des années 20 et des symboles de la fascination culturelle naissante pour la jeunesse, la consommation ostentatoire et les loisirs. La majeure partie de la vie de Zelda a été appropriée par Scott pour ses romans et pour ses nouvelles, mais son histoire complète, ses propres ambitions et expressions artistiques sont largement méconnues. La fille de l'austère juge de la Cour suprême d'Alabama, Anthony Dixon Serre et de Minnie Serre, est née le 24 juillet 1900 à Montgomery. Zelda, réputée pour sa beauté et son esprit impulsif, excentrique et effronté, scandalise la société puritaine par ses provocations et ses nombreux flirts. En 1918, Zelda fait la rencontre du jeune sous-lieutenant Scott, d'origine modeste en quête de gloire littéraire. Après des fiançailles très mouvementées, Zelda finit par épouser Scott en 1920, à l'orée du succès de L'envers du paradis, qui scandalise pour son absence de mœurs. Le jeune couple mythique symbolise alors les libertés et les excès des années 20. Ils sont emblématiques de la génération perdue qui fuit l'Amérique puritaine et la désillusion du rêve américain pour le réel luxueux et festif des côtes françaises. Scott et Zelda rêvent de leur vie et se disputent l'intimité de leur couple, comme matériau d'écriture. Deviennent des personnages romanesques sous la plume de Scott. L'influence de Zelda sur la fiction de son mari est incontestable. En plus d'inspirer ses principales héroïnes, elle lui fournit de la matière comme la description du cimetière d'Oakwood de Montgomery, qui apparaît dans la nouvelle Le Palais de Glace. En 1922, le New York Tribune engage Zelda pour réviser Les Heureux et les Damnés de Scott. Elle a laissé entendre qu'un passage du roman provenait directement de son journal intime manquant. L'appropriation des expériences et des écrits personnels de Zelda dans le travail de Scott et l'ajout fréquent de son nom à ses signatures sur près de 2 douzaines d'histoires et d'articles qu'elle a produits entre 1922 et 1934, renforcent les débats et les accusations. L'agent et les éditeurs de Scott ont ajouté son nom à plusieurs reprises afin d'augmenter le prix des œuvres auprès des grands magazines. Le couple se jalouse et se déchire. À la recherche de sa propre identité artistique, Zelda veut s'exprimer par la plume, par les pinceaux et par la danse. Elle se consume dans cette quête créative. Le destin de Zelda suit la trajectoire de l'époque, celle du krach de Wall Street et de la Grande Dépression. Internée pour la première fois en 1930 et diagnostiquée schizophrène, Zelda subit de lourds traitements, sombre et refait surface, avec force et ténacité, se bat avec lucidité et rédige en quelques mois, en clinique, son roman « Accordez-moi cette valse ». Un récit autobiographique de son mariage instable avec un mari névrosé, rongé par l'alcool, la jalousie, n'ayant de cesse d'empêcher le développement des propres talents et des propres choix de son épouse. La danse, dans laquelle Zelda se lance à l'âge de 26 ans, explorant alors un terrain sur lequel elle ne concurrence pas son mari, n'est pour Scott qu'une perte de temps. Cette désapprobation est retranscrite au travers du personnage de David, qui méprise les ambitions de l'héroïne Alabama.
Ainsi, lorsque David proposa à Alabama d'aller de nouveau la voir au studio de danse, elle protesta.
« Mais pourquoi pas ? »
dit-il.
« Je pensais que ça te ferait plaisir que je vienne te voir travailler. »«
Tu ne comprendrais pas. »
répondit-elle égoïstement.
« Tu ne verrais que les choses que l'on me donne à faire et que justement je ne réussis pas encore. Et tu me découragerais. »«
Tu n'es pas la première femme à avoir essayé de devenir danseuse. »
disait David.
« Il n'y a pas de quoi te montrer aussi empathique à ce sujet. »
Alabama était découragée.
Scott accuse alors Zelda de s'être emparée de leur vie intime et de son intrigue pour son roman « Tendre et la nuit ». Dans le premier manuscrit, David portait le nom d'Amory Blaine, le héros autobiographique de « L'envers du paradis », ce qui l'identifiait ouvertement à Scott. Scott force Zelda à réécrire son roman pour gommer les passages qui ne lui plaisent pas et tente de paterniser une nouvelle fois sa production. Seule la version revue d'Accordez-moi cette valse a été conservée. Celle-ci relate de façon moins personnelle et moins transparente que le manuscrit original le point de vue de Zelda sur leur mariage sensationnel et les causes de son échec. Une fois le roman de Zelda modifié et publié, qui n'a suscité que très peu d'intérêt, l'autrice tente d'employer une dernière fois sa plume publique pour la scène. Elle produit la comédie infructueuse Scandalabra, montée par une troupe de théâtre amateur à Baltimore en 1933. Son talent d'écriture est surtout concentré dans ses lettres sublimes et poignantes. Au cours des 14 dernières années de sa vie, Zelda se tourne à nouveau vers les pinceaux et les palettes colorées pour peindre des thèmes variés, ceux des paysages urbains, notamment new-yorkais, des voyages, des natures mortes fleuries, des figures, des contes de fées et des tableaux bibliques. Les Fitzgerald se séparent en 1934. De 1936 à 1940, Zelda est internée à Asheville et Scott tombe dans l'alcoolisme et l'obscurité littéraire. Scott déménage finalement à Hollywood dans l'espoir de devenir scénariste. Mais il y meurt d'une crise cardiaque le 21 décembre 1940. Endeuillée, Zelda retourne vivre chez sa mère Minnie à Montgomery. En plus de poursuivre l'usage des pinceaux, Zelda suit des cours de danse et commence son second roman intitulé « Les choses de César ». La salamandre, à la capacité de traverser les tourments de la vie enflammée, sombre à nouveau dans la dépression et s'éteint finalement dans la nuit du 10 au 11 mars 1948, où elle meurt brûlée vive dans l'incendie de l'hôpital psychiatrique d'Asheville, en Caroline du Nord. On peut voir dans ce feu une revanche de la réalité sur cette vie constituée de morceaux épars, finalement réunis en un effroyable brasier. L'un des derniers psychiatres de Zelda aurait déclaré après sa mort qu'elle était bipolaire plutôt que schizophrène, et que ses crises étaient autant le résultat des traitements et de sa relation conflictuelle avec Scott que sa propre fragilité. Troubles psychiques ou tourments existentiels d'une artiste brimée, tel est le diagnostic laissé en suspens. Mais reste cette figure mythique des années 20, d'une femme créative, douée et courageuse, au destin malheureusement inséparable de celui qui l'a construite autant que détruite.